Chapitre 8. Pronostic de bonheur. Camilla ne faisait que sortir de Clèves quand Sir Hugh, consultant ses girouettes qu'il avait négligées, vit que le vent était favorable au voyage de son neveu. Sans perdre une minute, il monte à la chambre d'Eugénia, lui dit de mettre un chapeau, de sortir avec lui, parce qu'on ne savait pas si certaines personnes ne devaient point arriver. Eugénia répondit en rougissant qu'elle aimerait mieux l'attendre. « Fort bien, lui dit-il. En ce cas, je vais prendre mes autres nièces. » Restée seule à la maison, Eugénia se trouva fort en peine. Dédaignant toute espèce d'avantages extérieurs, elle craignit que son oncle, dans sa franchise, ne dît qu'elle avait refusé de l'accompagner parce que sa toilette n'était pas faite. D'après cette idée, elle alla se promener dans le parc. Elle dirigea ses pas vers un petit bois, à quelque distance de la maison, où elle avait dessein de se reposer et de lire. Tout à coup, elle entendit marcher et vit au détour du bois un jeune homme en bottes, un fouet à la main, avec un air étranger. Elle devina que c'était clairement Lindmer. La timidité, presque inséparable d'une jeune fille, la pressait de l'éviter. Mais elle sut la vaincre et se commander. Elle s'arrêta jusqu'à ce qu'il arrivât auprès d'elle. Mais lui ne s'arrêta point. Sans précipiter ni ralentir son pas, il continua son chemin avec si peu d'attention qu'elle fut persuadée qu'à peine l'avait-il aperçu. Toute déconcertée de cette rencontre, elle resta muette d'étonnement et le regarda marcher. Quelques minutes après, Molly Mill, accourant, lui cria « Chère Miss, n'avez-vous pas vu le jeune monsieur Lindmer ? Il est venu par l'autre chemin. » « Précisément comme notre maître et Miss Margland et Miss Lindmer et Miss Tyrold étaient sortis par la grande porte pour aller à sa rencontre. » Eugénia s'assit sous un arbre pour se recueillir un peu. Cependant, l'étranger revint sur ses pas. Avant qu'elle pût se lever, il toucha légèrement son chapeau de la main sans presque la regarder. « Madame, dites-moi, je vous prie, lui dit-il, êtes-vous de cette maison ?» en montrant la demeure de Sir Hugh. Elle répondit faiblement « Oui, monsieur. » Il ajouta « Je ne fais que d'arriver et je cherche Sir Hugh et les jeunes ladies. L'on m'avait dit que je trouverais l'une d'elles de ce côté, mais je n'en trouve aucune. Les auriez-vous aperçues ?» Eugénia fut encore plus confuse et plus interdite. Sans faire attention à son embarras et regardant de tous côtés, il répéta la même question. Eugénia lui montra la grande porte en lui balbutiant qu'elle croyait qu'il venait par ce chemin. « Je vous remercie, » répondit-il, et, sans dire un mot de plus, il s'en alla. Eugénia ne pouvait ni se mouvoir ni se lever. Une espèce de stupeur morne l'attachait à la même place quand la voix de son oncle vint l'en tirer. Elle se leva, s'achemina de son pas ordinaire vers la maison et s'enfuit à sa chambre par l'escalier dérobé. Telle fut l'entrevue souhaitée depuis si longtemps, à laquelle elle s'était préparée pendant tant d'années et qui devait précéder l'époque la plus importante de sa vie. Brusquerie d'une part, découragement et confusion de l'autre. Quelques minutes après, Molly Mill dit en entrant « Les voilà tous revenus et Sir Hugh qui mange de caresses le jeune monsieur. Cela n'est pas étonnant car c'est un des plus beaux cavaliers que j'ai vus. « Allons, Miss, j'espère que vous allez mettre quelque autre chose, ce chapeau ne vous sied pas. Je ne voudrais pas pour tout au monde que ce monsieur vous eût vu faite comme cela. » L'honnête simplicité de Molly redoubla le chagrin de sa jeune maîtresse. Après l'avoir envoyée, la pauvre Eugénia courut d'un air inquiet se regarder dans le miroir. Un moment après, elle aperçut par la fenêtre son oncle qui riait et qui faisait des signes très expressifs à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir. Honteuse d'être ainsi surprise, elle se retirait à l'autre bout de la chambre quand elle entendit Sir Hugh qui criait « Eh oui, vraiment, elle se prépare pour vous recevoir. C'est pour cela qu'elle n'est pas venue avec nous. Ainsi, ne la pressez pas, quoique votre impatience ne laisse pas de me faire beaucoup de plaisir. Et croyez-moi, la sienne vaut bien la vôtre, avec cette différence que les jeunes filles ne peuvent pas tant en parler. » Eugénia vit alors que Clermont ne soupçonnait pas qu'il l'eût vue. Sir Hugh en conclut qu'elle n'avait pas quitté sa chambre et ne fit aucune question qui pût le détromper. Enfin, le baronnet monta lui-même et frappant à la porte. « Allons, dit-il, ma chère, ne soyez pas trop recherchée. Venez, venez, il vous attend. » Elle ouvrit la porte. Sœur Hugues, la regardant avec surprise et chagrin, s'écria « Comment, ma chère, vous n'êtes pas encore prête ?»«
Non, monsieur, répondit-elle froidement, je ne m'habillerai que pour dîner. »
« Ma chère enfant, reprit-il doucement, quoique avec un peu d'embarras, quoique vous n'avez pas besoin, je le sais, de parure extérieure, je vous demande seulement de vous montrer pour la première fois à votre plus grand avantage, de crainte qu'il ne lui prenne quelque dégoût avant qu'il sache que le docteur Hawkborn...
« Dégoût, monsieur, reprit Eugénia, si vous le croyez, je ferai donc mieux de ne pas le voir du tout. »
« Ma chère amie, vous ne me comprenez pas, parce que ma pauvre tête ne s'explique pas bien, et c'est une chose remarquable que je ne puisse y remédier. Mais je ne veux pas dire que je doute en aucune manière de son plaisir à vous voir, excepté dans le commencement, parce qu'il n'y est pas encore habitué. Quant à vos études, il y a autant de latin et de grec d'un côté que de l'autre. Cependant, si vous ne voulez pas vous arranger, ce n'est pas la peine de retenir ce pauvre garçon le bec dans l'eau. » Alors il la prit par la main, l'entraînant plutôt par l'escalier qu'il ne la conduisait, et lui disant à l'oreille « Je vous assure, c'est un beau jeune homme, c'est presque un petit maître, autant que je puis m'y connaître. » Tout le monde était au salon, excepté Camilla. Le baronnet venait de lui dépêcher Edgar, M. Tyrol n'était pas encore revenu de sa promenade à cheval, mais pour l'avertir, Sœur Hugues avait fait sonner la grande cloche du dîner. Le jeune Lindmer attendait l'arrivée d'Eugénia avec une impatience qu'à peine il pouvait modérer. Il était loin de soupçonner que ce fût elle qu'il avait rencontrée dans le parc, puisqu'il l'avait prise pour une des servantes de la maison. Quand son oncle fut sorti, il fit mille questions à la fois. Était-elle grande, petite, maigre, belle, brune, vermeille ou pâle? Il s'adressait à tout le monde, mais personne ne lui répondait. Cependant, tous appréhendaient les suites d'une curiosité si vive. La seule Indiana ne pouvait s'empêcher de sourire en se représentant d'avance la surprise de son frère quand il verrait sa prétendue.
« la voici !» s'écria Sœur Hugues en ouvrant la porte avec bruit.
Quoiqu'elle ait de beaux ajustements, elle a mis ce qu'elle a de plus laid, afin de paraître mal au commencement, pour qu'à la fin, il n'y ait pas de sa faute. Preuve de sagesse qui fait honneur à son éducation. C'est peut-être la première fois qu'on ait trouvé trop courte une harangue du baronnet. La surprise de Lindmer, en la voyant, fut telle qu'il ne put parler. Eugénia tâchait, mais en vain, de retrouver sa tranquillité naturelle ou de la remplacer par un air de dignité. L'annonce imprudente de Sœur Hugues, qui venait de fixer toute l'attention de la compagnie sur elle, la couvrit de confusion et lui causa même un tremblement si fort qu'elle fut obligée de s'asseoir sans rien dire, et les mains jointes, comme si la pauvre enfant eût demandé grâce.
« Allons, ma chère, allons, dit-il, ne vous chagrinez pas. Ce que j'ai dit n'a pas le sens commun, quoique j'ai cru bien faire, et votre cousin aurait tout aussi bien fait de vous saluer avant que vous fussiez assise. Mais peut-être n'est-ce plus l'usage aujourd'hui, tout étant changé depuis ma jeunesse, ce que je ne pourrai de longtemps apprendre si Dieu ne vient à mon secours. » Alors ils se mirent tous à table, Sœur Hugues répétant sans cesse « Voici le plus beau jour de ma vie, quoique j'ai déjà vécu bien longtemps. Je vous vois tous réunis enfin, et mon cher neveu revenu dans son pays natal, la bonne vieille Angleterre. » Milmarland servit le thé. Le jeune Lindmer dévorait tout ce qui se trouvait sur la table. Indiana, qui voyait son frère aussi beau que sa cousine était laide, ne pouvait s'empêcher de ricaner en les regardant. Lavinia paraissait mortifiée de l'extrême embarras de sa sœur. Le docteur Hawkborn cessait un moment de rêver à son ouvrage, croyant qu'on allait l'inviter à parler science avec le jeune savant. Sœur Hugues était le seul qui parla sur le plaisir de revoir son neveu, sur son maintien et sur ce qu'il avait rapporté du pays étranger, cet appétit robuste de la bonne vieille Angleterre. Sans lui, jamais repas n'eût été plus taciturne. L'arrivée de M. Tyrol vint ranimer toute la société, mais lui-même souffrit beaucoup de voir Eugénia si confuse. Il était presque indigné contre Clermont, qui la regardait d'un air dédaigneux, car l'on pouvait lire dans chacun de ses traits le ridicule ou le mépris. Quand Sœur Hugues vit à la fin que le jeune voyageur ne disait pas une parole, il s'écria « Dieu nous soit en aide, quelle folie à nous d'être si ravis. Je parle et je parle tout seul. Mon jeune savant ne dit mot, c'est apparemment parce que je ne parle qu'anglais. J'en suis fâché, je ne sais point d'autre langue. Ce n'est pas ma faute à proprement parler. J'ai le sens un peu lent, comme le docteur pourra le certifier, car je vous garantis que personne n'a pris plus de peine. Mais nos têtes ne vont pas toujours à notre fantaisie. » Alors il recommença le triste détail de ses études et dit comment elles avaient échoué. Lorsque Camille apparut, Lynn-Mère était à la fenêtre. Eugénia se leva pour profiter de l'occasion et se sauver dans sa chambre. Mais en le voyant se retourner de son côté, elle se rassit, n'osant pas pour la première fois faire voir qu'elle était boiteuse, chose à laquelle elle avait été jusqu'à ce moment très indifférente. Camilla entra. Son air et ses traits étaient tellement empreints du trouble et des agitations qu'elle avait éprouvées qu'avec la plus légère attention, on s'en serait aperçu. Mais Eugénia et Lynn-Mère occupaient tout le monde. Et Camilla elle-même, à la première vue de Clermont, oublia ce qui la touchait personnellement pour considérer en lui l'homme chargé du futur bonheur d'Eugénia. Mais ce ne fut que pour un moment. Elle chercha des yeux et ne vit point Edgar. Son oncle lui demanda ce qu'il était devenu. Alors, se sentant défaillir, elle voulut se retirer dans sa chambre. Mais Sir Hugh, persuadée qu'elle ne se trouvait faible que parce qu'elle n'avait pas déjeuné, pria Miss Margland d'apporter du thé frais. Il ajouta « Comme j'entends que nous soyons tous également heureux aujourd'hui, pour Dieu, que personne ne sorte d'ici. Réjouissons-nous tous ensemble. » Cette invitation à la joie produisit l'effet ordinaire des invitations de cette espèce. D'abord un silence, puis un bâillement général et le désir secret dans chacun de se séparer, à l'exception de Sir Hugh, qui dit après une pause « Pourquoi donc personne ici ne parle-t-il que moi ? Je le trouve assez étrange. Cependant, mon cher neveu, si vous ne vous souciez pas de notre conversation purement anglaise, ce qui ne m'étonnerait point après toutes vos études, vous pouvez, le docteur et vous, bredouiller un peu de grec et de latin. » Lynn-Mère s'appuya sur le dos de sa chaise et regarda son oncle d'un air étonné. « Allons, docteur, s'écria le baronnet, vous êtes le plus vieux, c'est à vous à commencer. » Le docteur Hogbord attaqua par un vers d'Horace que Lynn-Mère l'empêcha d'achever par l'empressement avec lequel il saisit la théière pour remplir sa tasse. Mais il versa de manière que la liqueur ruissela sur le parquet. Toutes les dames s'éloignèrent de quelques pas pour sauver leur robe. Et Miss Margland, par forme de reproche, lui demanda si le thé n'était pas fait à son goût. « Ne faites pas attention à cela, mon neveu, je vous prie, » s'écria Sir Hugh. « Le petit garçon enlèvera tout. Et d'ailleurs, il n'y a point ici d'étrangers. Ainsi, reprenez votre latin. » Lynn-Mère, sans se soucier du latin, de l'accident, des paroles obligeantes de Sir Hugh, avala son thé d'un seul trait et dit alors « Je vous prie, monsieur, où sont les papiers nouvelles ?»« Les papiers, mon cher neveu, je n'ai point de papiers. Que voudriez-vous que nous fissions d'un tas de balivernes politiques dont aucun de nous ne connaît le vrai point? Nous voici tous réunis, et n'est-ce pas pour nous amuser ?»« Point de papiers, monsieur, » reprit Lynn-Mère en se levant et tirant fortement la sonnette. Puis, souriant de mépris, « Ah, vivre dans un pays sans papiers nouvelles !» Un domestique parut. Il lui donna commission d'acheter tous les papiers du matin qu'il pourrait se procurer. Sir Hugh parut fort étonné, mais revenant tout à coup à lui, « Mon cher neveu, dit-il, je pense qu'à la fin j'ai deviné ce que vous voulez. Si nous vous paraissons assez ennuyeux, comme je le suppose, nous allons vous laisser avec certaines personnes afin que vous puissiez faire connaissance ensemble. » Saisie de peur, Eugénia s'attacha fortement à ses sœurs, et M. Tyrol, touché d'une tendre compassion à la vue de son effroi, dit tout bas à Sir Hugh qu'il n'était pas encore temps de les laisser en tête à tête. Ensuite, la prenant par la main, il l'accompagna jusqu'à sa chambre en s'efforçant de la rassurer en chemin. Sir Hugh, fâché de ce contretemps, les suivit pour donner quelques ordres particuliers. Le reste de la compagnie se dispersa et Lynn-Mère resta seule avec sa sœur. Marchant sur la pointe du pied jusqu'à la porte, il la ferma très vite et mit l'oreille au trou de la serrure, jusqu'à ce qu'il n'entendît plus marcher. Alors, revenant promptement, il se jeta de tout son long sur un sofa et fit un si violent éclat de rire qu'il s'en tenait les côtés. Indiana dit en ricanant « Eh bien, mon cher frère, comment la trouvez-vous » Comment je la trouve ? Répliqua-t-il quand il fut en état de parler. Le bonhomme radote. Autrement, supposerait-il sérieusement que je puisse vouloir épouser une pareille figure ?
Oui, mon frère, il radote, répondit-elle en riant aux éclats. Tout est déjà prêt pour ce mariage.
D'honneur, reprit Lindmer, se roulant encore sur le sofa. Ensuite, se remettant tout à coup, il alla se pavaner devant une glace.
« Très obligé, mon oncle » s'écria-t-il. Se retournant ensuite vers sa sœur et toujours dans une posture élégante. « D'honneur, je lui suis très obligé, n'est-ce pas, Indiana ?»«
Enfin, mon frère, la voilà. Dites, avez-vous vu petit monstre plus effrayant que cette pauvre créature ?»«
Jamais, » dit-il en changeant de posture et continuant de s'examiner devant la glace avec une confiance intrépide. « Il a pris grand soin de mes plaisirs. » Le joli mariage. Ensuite, il s'assit, comme pour réfléchir plus mûrement sur cette affaire, et prit Indiana par le bras. Pourquoi ne m'avoir pas envoyé le portrait de cette jeune beauté ? Il faut avoir un peu de courage pour la voir sans lui rire au nez, et je me serai préparée. Indiana n'y avait pas songé. D'ailleurs, elle avait pris l'écriture en aversion. Sa correspondance avec son frère se réduisait tout au plus à 2 lettres par an, lettres fort courtes qui roulaient sur des choses générales et qui ne partaient pas avant d'avoir été lues par toute la famille. Alors elle lui raconta l'histoire du testament et ce projet de mariage dont les détails n'étaient parvenus à Lindmer que très incomplets et dont il n'avait pu croire que la moitié. Alors des accès de fureur succédèrent aux grands éclats de rire. Il cria qu'il était ruiné, perdu, traita Sir Hugh de vieux radoteur qui le privait injustement de ses droits et de ses espérances.
« Voilà, dit Indiana, la raison pour laquelle il veut vous marier à votre cousine Eugénia, parce qu'il réparera, dit-il, de cette manière, le tort qu'il vous a fait. » Ceci le conduisit à considérer plus sérieusement l'affaire, mais il protesta que, sans argent, il n'écouterait aucune proposition. Ensuite, se plaçant encore devant la glace, « Quelle honte, Indiana » dit-il. « Ne serait-ce pas un meurtre qu'un pareil sacrifice ? Qu'il paie pour moi quelques dettes, qu'il me donne quelques centaines de guinées pour commencer, je le tiens quitte de tout le reste et lui laisse bien volontiers sa chinoise. » Quand on eut apporté des papiers nouvelles, il pinça légèrement le menton d'Indiana, lui dit qu'elle était la plus belle fille qu'il eût vue en Angleterre, et se retira tout en sifflant dans la chambre qui lui était destinée. Clairement Lindmer avait tant de ressemblance avec sa sœur qu'on l'aurait presque pris pour elle. Mais la vue de l'un et l'autre produisait un effet bien différent. Ce qui n'était en elle que la délicatesse, apanage aimable de la beauté, était dans Clairement une mollesse efféminée. La beauté d'Indiana, son front, le coloris de ses joues, le vermillon de ses lèvres, l'éclat de ses yeux bleus et languissants, la petite forme de sa bouche presque enfantine et la blancheur éblouissante de ses petites mains et de ses doigts, tous ces agréments qui ravissaient dans la sœur, n'avaient rien d'attrayant dans le frère. Les hommes le regardaient comme un petit maître insignifiant et les femmes comme un fat trop épris de lui-même pour rien admirer en elle. Quant à l'intelligence, il n'en avait pas plus que sa sœur. S'il avait quelque supériorité sur elle, il le devait moins à ses facultés qu'à son éducation un peu plus soignée. Son caractère répondait à sa personne. La nature n'avait imprimé ni sur l'un ni sur l'autre le cachet de sa dignité. Il avait de la jeunesse sans élan, de la vivacité sans esprit et du savoir sans connaissance. Avec tout cela, quand il se considérait dans un miroir, il se trouvait charmant et quand il réfléchissait sur tous ses avantages, il se croyait aussi sans défaut, c'est-à-dire parfait de corps et d'esprit.